Chapitre 6 Danger. Le règne de la terreur était à son apogée. McMurdo, promu à la dignité de diacre, pouvait déjà prévoir qu'il recueillerait un jour la succession de McGinty comme maître. Il était devenu si nécessaire dans ses conseils qu'on ne faisait rien sans son avis et son assistance. Cependant, plus il gagnait en popularité près des hommes libres, plus les figures se renfrognaient sur son passage dans les rues de Vernissa. Les citoyens, dominant leurs craintes, commençaient à se liguer contre leurs oppresseurs. On avait eu vent à la loge de réunions secrètes tenues dans les bureaux du Herald et d'une distribution d'armes chez les partisans de la légalité. McGinty et ses gens n'en conçurent pas d'inquiétude. Ils étaient nombreux, résolus, forts. Leurs adversaires n'avaient ni cession ni moyens. Tout cela finirait, comme dans le passé, par d'inutiles paroles, l'autre peut-être par d'importantes arrestations. C'était le sentiment de McGinty, de McMurdo et des plus audacieux de la bande. La loge tenait séance tous les samedis. Un samedi de mai, McMurdo s'apprêtait à s'y rendre quand il reçut la visite de Morris. Le brave homme avait l'air rongé par le souci. Sa figure était tirée, défaite. « Puis-je causer librement avec vous, monsieur McMurdo ?»« Mais bien sûr. Je n'oublie pas que je vous ai déjà ouvert mon cœur. » Et que vous en avez rien dit à personne, même quand vous avez eu à subir un interrogatoire du maître. Mais vous vous étiez confié à moi. Pouvais-je faire autrement que de me refaire, de me taire ? Non, non. Oh, non pas que je sois d'accord avec vous. Je sais, mais je n'ai que vous à qui me livrer en toute assurance. Là, je porte là. Et Maurice se frappait la poitrine. Un secret qui me brûle, qui me tue. Connaisse-moi plutôt le secret d'un autre. Si je parle, c'est un meurtre. Si je parle pas, c'est notre fin à tous. Oh, que Dieu me soit en aide. Je crois que je reperdrai la tête. McMurdo le regarda, et le voyant trembler de toutes ses membres, il versa du whisky dans un verre qu'il lui tendit. « Pour des gens comme vous, dit-il, voilà le remède. Allez, parlez maintenant, parlez. » Maurice but. Un peu de couleur ranima son visage blême. « Oh, je vous dirai tout en deux mots, reprit-il. Un détective est sur nos traces. » McMurdo ouvrit de grands yeux. « Est-ce là ce qui vous affole ? Mais ignorez-vous que le pays regorge de policiers et de détectives ? Quel mal nous font-ils jamais fait ? Le détective dont je parle n'est point du pays. Oh, ceux du pays, on les connaît, en effet, ils sont guère à craindre. Avez-vous entendu parler de l'agence Pinkerton ? Moi, j'ai lu quelque part ce nom-là. Eh bien, sachez qu'on ne fait pas le fier pour peu qu'on ait assez trousses. Oh, c'est pas une de ces institutions d'État qui opère au petit bonheur. C'est une maison sérieuse, travaillant pour des résultats positifs et n'ayant de cesse qu'elle ne les obtienne. Si Pinkerton a lâché un de ses hommes, nous sommes perdus. « Tuons-le. »« Parbleu, oui, c'est votre première idée. Ce sera celle de la loge. Ne vous ai-je pas dit que ça finirait par un meurtre ?»« Mais un de plus ou un de moins, qu'importe. Est-ce que cela compte ici ?»« Certes non. Mais je ne dormirais plus si je désignais la victime. Et pourtant, il y va de nos têtes. » Mais que faire au nom du ciel ? Et dans sa détresse, Maurice arpentait fiévreusement la chambre. Ces paroles n'avaient pas laissé d'impressionner Macmurdo. Il concevait le danger et la nécessité d'y faire face. Prenant Maurice par l'épaule et le secouant, « Que diable ! » s'écria-t-il d'une voix vibrante. « Vous ne direz rien, vous lamentez comme une vieille pieureuse. Au fait, qui est cet homme ? Où est-il ? Qui vous a renseigné sur lui ? Pourquoi venez-vous à moi ? Je viens à vous parce que seul vous pouvez me donner un conseil. Je vous ai dit qu'avant de m'installer ici, je tenais un commerce dans l'est de laisser là-bas des bons amis. L'un d'eux est employé de télégraphe. Voici une lettre de lui reçue hier. Lisez vous-même en haut de la page. » Et Macmurdo lut. « Comment se portent vos écumeurs ? La presse s'en occupe à tout propos. De vous à moi, je crois qu'avant peu, nous en aurons des nouvelles. » 5 grandes corporations et 2 compagnies de chemin de fer ont pris la chose à cœur. Elles sont si bien résolues à ne rien démordre, et n'en démordront pas, soyez tranquilles. Elles sont engagées à fond. Pinkerton se charge de tout mener, et déjà, son meilleur agent, Burdick Watts, est en campagne. Vous ferez bien de prendre vos précautions. Lisez le post-scriptum à présent. Ce que je vous en dis, je l'ai appris à l'occasion du service. Et bien entendu, cela ne doit pas aller plus loin. Chaque jour, il nous passe entre les mains d'interminables télégrammes chiffrés où il est impossible de rien comprendre. Macmurdo se tut. La lettre tremblait dans ses mains nerveuses. Un brouillard se levait devant lui. Et il apercevait l'abîme à ses pieds. « Avez-vous fait part de ceci à quelqu'un ? » demanda-t-il. « Non, personne. » « Mais votre ami, n'en aurait-il pas d'autres correspondants ? Ou un ou deux, peut-être ? » « Membre de la loge, sans doute. » « Si je vous le demande, c'est qu'il a pu donner le signalement de Bird et Edwards, et qu'avec le signalement, nous arriverions à dépister l'homme. » « Oh, je ne crois pas qu'ils le connaissent. Ils me disent qu'il a lui-même eu l'occasion du service, mais comment connaîtrait-il l'agent de Pinkerton ?» Soudain, Macmurdo fit un haut-le-corps. « Pardieu ! » s'écria-t-il, « mais je le tiens. Quel imbécile j'étais de ne pas m'en aviser plus tôt. Nous avons de la chance. Nous ne lui laisserons pas le temps de nous nuire. Voyons, Maurice, remettez-vous l'affaire entre mes mains. Oh, de grand cœur, si vous m'en débarrassez entièrement. Vous vous effacez, vous vous en rapportez à moi, je ne prononce même pas votre nom. Je prends tout sous mon bonnet, comme si j'avais reçu les lettres. Cela vous va-t-il ? Oh, je ne demande pas autre chose. » Alors, n'y pensez plus, n'en parlez plus. Je vais à la loge, Pinkerton aura bientôt fait de se déchanter. Vous tueriez son agent ? Moins vous en saurez, ami Maurice, plus votre conscience sera paisible et votre sommeil léger. Ne posez pas de questions, attendez les événements. C'est moi que tout ceci regarde maintenant. Maurice, en se retirant, secoua la tête. « Il me semble tremper mes doigts dans le sang, » gémit-il. « Bah !» répondit Macmurdo avec un sourire équivoque. « C'est pas assassiner que de se défendre. Ou lui ou nous, cet homme nous perdrait s'il restait longtemps dans la vallée. Frère Maurice, vous serez un jour notre maître, quand vous avez sauvé notre loge. » Si Macmurdo affectait de prendre légèrement l'incident, ses actes ne prouvèrent pas moins combien il se sentait le sérieux. Et moi, d'une conscience coupable, sentiment de la puissance que représentait un organisme comme l'agence Pinkerton, ou juste appréciation de l'effort que les grandes compagnies allaient tenter contre les écumeurs, quel que fût le motif auquel il obéit, il se comporta comme un homme qui prévoit le pire. Avant de sortir, il brûla tous les papiers qui pouvaient le compromettre, et quand il les vit en cendres, il poussa un soupir de satisfaction. Non pas pourtant qu'il fût complètement rassuré, car en se rendant à la loge, il s'arrêta devant la maison du vieux Schulter. La maison lui demeurait interdite, mais il n'eut qu'à taper à la fenêtre pour qu'Etty apparût au dehors. L'air grave de son amoureux l'impressionna. McMurdo n'avait plus dans les yeux une certaine mauvaise flamme irlandaise qu'elle voyait danser d'ordinaire. « Se passe quelque chose, Jacques ? » s'écria-t-elle. « Jacques, vous êtes en danger ?»« Oh, le danger n'est pas imminent, mon cher cœur, mais peut-être ferions-nous bien de partir avant qu'il ne revienne. »«
Partir, dites-vous ? »
« Ben, je vous ai promis que je m'en irai un jour ou l'autre. L'heure est venue. Oui, j'ai de mauvaises nouvelles. Je prévois des ennuis. »
« La police ?»«
Un agent de Pinkerton. Oh, ne cherchez pas à comprendre, chérie. Je suis dans une situation où il se peut que j'ai à me tirer le plus tôt vite possible. » « Vous m'avez dit que vous rien diriez avec moi si je m'en allais. »«
Ah, Jacques, ce départ serait le salut pour vous. »«
Mais de l'honnêteté en certaines choses, Etty. Je ne voudrais pas, pour tous les trésors du monde, toucher un cheveu de votre tête, ni vous faire descendre une seconde du trône où je vous ai assise parmi les nuées. » « Avez-vous confiance en moi ?» Elle lui tendit la main sans une parole. « Alors écoutez-moi bien et suivez mes instructions, car je ne vois qu'un parti à prendre. Des événements vont se produire dans cette vallée. Un instinct m'avertit. Bien des gens, dont je suis sûr, auront à bon s'en préoccuper. Si je m'en vais, de nuit et de jour, il faut que vous m'accompagniez.
Je m'en irai après vous, Jacques.
Non, 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 pas après, mais avec moi. Comment vous laisserai-je dans cette vallée qui ne serait défendue où je pourrais risquer de ne jamais revenir? Force peut-être de me cacher pour échapper à la police. Je n'aurai aucun moyen de recevoir de vos nouvelles. Il faut que vous veniez avec moi. Je connais, au pays d'où je viens, une brave femme. Vous habiterez chez elle jusqu'à notre mariage. Viendrez-vous?
Oui, Jacques, je viendrai.
Oh, soyez bénis de vous fier à moi. Je serais un démon d'enfer si j'en abusais. Donc, au premier signe, vous abandonnerez tout sur le champ. Vous irez à la gare et vous y entendrez que je vous joigne.
De nuit ou de jour, au premier signe, Jacques.
Ces préparatifs de fuite ainsi arrêtés, McMurdo, un peu soulagé, se rendit à la loge. Les frères tenaient déjà séance et il eut à remplir mille formalités compliquées de passes et de contrepasses avant de franchir le double cordon des gardes qui protégeaient l'accès de l'assemblée. Un murmure de satisfaction et de bienvenue l'accueillit à son entrée. La vaste salle était pleine. À travers un brouillard de fumée, il aperçut la noire crinière broussailleuse du maître, les traits féroces et hostiles de Baldwin, la tête de vautour du secrétaire Harway et la douzaine d'assesseurs qui constituait le bureau de la loge. Il se réjouit qu'ils fussent tous présents pour délibérer sur la nouvelle qu'il apportait. « Vraiment, nous sommes heureux de vous avoir, frère, s'écria le président, car nous avons à trancher un litige qui ne demande pas moins que le jugement d'un Salomon. Oui, il s'agit de Lardner et de Nigan, lui expliqua son voisin, tandis qu'il prenait un siège. Tous les deux réclament la prime allouée par la loge pour le meurtre du vieux crabe à Silverstown. Lequel des deux a tiré la balle? Macmurdo se dressa, la main levée. Telle était l'expression de son visage que l'assemblée parut instantanément se figer. Un silence de mort s'établit. Vénérable maître, dit-il, je réclame l'urgence. Frère Macmurdo réclame l'urgence, dit McPerty. Au terme du règlement, la priorité est de droit. Frère, vous avez la parole. Macmurdo prit la lettre dans sa poche. Vénérable maître, et vous, mes frères, dit-il, je vous apporte aujourd'hui de mauvaises nouvelles. Mais il vaut mieux les connaître et en discuter tout de suite que de recevoir inopinément un coup dont nous ne nous réveillerions pas. Je suis informé que les plus riches, les plus puissantes organisations de cet État se sont coalisées pour nous abattre. À 7 heures même, un détective de Pinkerton opère dans la vallée, recueillant des témoignages qui, pour beaucoup d'entre nous, signifient la corde et pour le reste, la prison. Telle est la question pour laquelle j'ai demandé l'urgence. De nouveau, un grand silence plana sur la salle. « Frère Macmurdo, dit le président, où avez-vous la preuve de ce que vous avancez ?»« Dans cette lettre, dit Macmurdo. » Et il lut tout haut le passage dénonçant les intentions des compagnies. Puis il ajouta, « Je suis tenu d'honneur à ne vous donner aucun détail sur cette lettre et à n'en pas les saisir entre vos mains. Mais je vous affirme qu'à part ce que je viens de lire, elle ne présente rien d'intéressant pour la loge. Tel j'ai eu le renseignement, tel je vous le livre. « Monsieur le Président, dit l'un des anciens, j'ai entendu parler de ce Bird Edwards. C'est le meilleur agent de Pinkerton à son service. « Quelqu'un le connaît-il de vue ?» demanda McGinty. « Moi, » répondit Macmurdo. Un murmure d'étonnement courut dans l'assemblée. « J'ai idée que nous le tenons dans le creux de la main, » continua-t-il avec un sourire de triomphe. « Agir bien et vite, c'est le moyen de prévenir tous ces désagréments. Fiez-vous à moi, aidez-moi, et vous n'aurez pas grand-chose à craindre. De toute façon, que pourrions-nous avoir à craindre? Qu'est-ce que cet individu peut avoir de nos affaires? Oh, vous auriez le droit de tenir ce langage si tout le monde était aussi sûr que vous, conseiller. Mais cet individu a derrière lui les millions de capitalistes. Croyez-vous que dans toutes ces loges, il ne se rencontre pas un frère capable d'une défaillance est susceptible de se laisser acheter? Bird Edwards se procurera certainement nos secrets, s'il ne les possède déjà. À cela, il n'y a qu'un remède. Mais c'est qu'il ne sort jamais de la vallée, dit Baldwin. Et Macmurdo fit un signe d'assentiment. À la bonne heure, frère Baldwin, dit-il. Vous et moi pouvons n'être pas toujours du même avis, mais ce soir, vous avez trouvé le mot de la circonstance. Mais où est donc cet homme? Comment le reconnaître? Vénérable maître, continua Macmurdo, laissez-moi vous représenter que cette affaire est d'importance trop capitale pour que nous la discutions en réunion plénière. Dieu me garde de jeter la suspicion sur aucun de nos frères. ici présent, mais il suffirait de la moindre indiscrétion pour anéantir nos chances de réussite. Je demande à la loge de constituer une commission, dont vous serez par exemple monsieur le président, avec frère Baldwin et 5 autres membres. Alors je dirai librement ce que je sais et ce que je conseille. La proposition fut adoptée séance tenante et la commission nommée. Outre le président et Baldwin, on désigna pour en faire partie Haraway, le secrétaire à face de vautour, Tigre Cornac, la jeune brute sanguinaire, Carter, le trésorier, et les frères Willoughby, deux criminels endurcis, également fermés à la crainte et aux scrupules. La petite fête qui terminait habituellement les réunions de la loge fut brève et manqua d'entrain. Tous les cœurs étaient assombris. Pour la première fois, ces hommes voyaient se lever sur un ciel longtemps serein le nuage menaçant de la loi. Ils vivaient dans un état d'abomination, d'où la pensée du châtiment est à ce point exclue qu'elle les prenait à l'improviste. Ils se retirèrent tôt pour laisser délibérer leur commissaire. « Parlez maintenant, McMurdo, » dit McGinty. Les 7 hommes sur leur siège semblaient des statues de pierre. « Je vous ai déjà dit que je connaissais Birdie Edwards, » expliqua McMurdo. « Inutile d'ajouter qu'il n'est pas ici sous son vrai nom. » C'est assurément un gaillard plein de courage, mais non pas un sot. Il se fait appeler Steve Wilson et il loge à Hudson Sparks. Mais comment le savez-vous? Oh, hasard m'a fait causer avec lui. Je ne me méfiais de rien tout d'abord et je n'aurais plus jamais pensé sans cette lettre. Mais à présent, je n'ai aucun doute. Par le plus singulier hasard, je le rencontrai mercredi à l'occasion d'un petit déplacement. Il me dit qu'il était journaliste et je commençais par le croire. Il désirait se renseigner pour la New York Press sur les écumeurs et qu'il appelait leurs excès. Il me posa toutes sortes de questions comme pour documenter son journal. Vous pensez si je souffle les mots. Je paierai largement, dit-il, de quoi satisfaire mon directeur. Alors je lui contai tout ce que je pus inventer pour lui être agréable. Il me remit un billet de $20 en me promettant 20 fois cette somme si je lui procurais tout ce qu'il cherchait. Et alors? Alors? Je lui débitais 1000 fables. Mais comment avez-vous su que ce n'était pas un journaliste? Bien voilà, il descendit à Houston Patch. Moi aussi. Alors j'errai l'aventure au bureau du télégraphe, comme il en sortait. En vérité, me dit l'employé, une dépêche pareille devrait payer deux taxes. Le fait est que le texte remplissait toute la formule. Et pour ce que nous en tirâmes, il aurait pu aussi bien être rédigé en chinois. « Oh, c'est chaque jour comme ça !» ajouta l'employé. « Oui, répondis-je. Il envoie des informations spéciales à son journal et il craint qu'on ne les lui vole. C'était l'idée de l'employé comme la mienne. » « Eh bien, je pense différemment aujourd'hui. »« Pardieu, vous devez avoir raison, » dit McGinty. « Mais que faire ?»« Nous en débarrasser, » proposa quelqu'un. « Elle, plutôt, sera le mieux. »« Mais je ne balancerai pas un instant, si je savais où trouver, » dit McMurdo. « Il vit à Hobson Parcel, mais j'ignore son domicile. » J'ai d'ailleurs mon plan tout tracé, si vous me donnez carte blanche. Expliquez-vous, Bien, je vais demain matin à Hobson Place Church. Grâce à l'employé du télégraphe, qui connaît, j'imagine, l'adresse de mon individu, je le découvre. Je lui dis que je suis un homme libre. Je lui offre, contre bon argent, les secrets de la loge. Il saute sur ma proposition et j'ajoute que j'ai chez moi tous les papiers, mais que ce serait risqué ma vie que de me laisser venir à une heure où les gens rôdent encore dans les rues. Il me comprend sans peine. Je le prie donc de venir le soir à 10 heures et je lui promets qu'il se fera tout. Il viendra, soyez tranquille. Bien, mais la suite, la suite se devine. J'habite une maison écartée. Ma propriétaire, la veuve McMahara, est une personne sans méfiance, et d'ailleurs sourde comme un pot. Il n'y a au logis que Scarlan et moi. Si Brother Edwards accepte de venir, je vous le fais savoir, et vous arrivez tous les 7 à 9 heures. Et nous le tenons. Ou il ne sortira pas vivant de vos mains, ou il pourra longtemps parler de sa chance. « Je me trouve bien, » dit McClinty. « S'il y a d'ici peu un emploi vacant chez Pinkerton. »« Entendu, McMurdo. Demain soir à 9 heures, nous sommes des vôtres. Si Drôlhomme introduit, vous refermez la porte et nous nous chargeons du reste. »